Je ne l'espère pas tout à fait de la même manière, puisque je vais, de toute façon, je vais les redire. Mais bon, mes craintes d'avant se sont confirmées, notamment en entendant Pierre Lagrange. Et je suis content d'une chose, c'est d'être passé en cinquième, pas en septième. Parce qu'un petit peu, tous les conférenciers ont déjà abordé des thèmes que je vais reprendre. Mais bon, on va partir du principe que ça sera différent, puisque le montage est différent d'une façon à chaque fois. Alors, mais comme je me doutais un peu de ça, j'avais essayé de commencer par quelque chose qui soit un petit peu différent. Alors, je tiens tout d'abord à remercier Grégory Gutiérrez. Qu'est-ce qu'il est passé? Vous lui direz. Donc, pour le courage et l'obstination qu'il a démontré dans l'organisation, j'étais en train de te remercier. Pour le courage et l'obstination qu'il a démontré dans l'organisation de cette journée, j'ai eu l'occasion de vive voix de remercier Georges Molinier, donc le président de l'Université Paris 4 Sorbonne, parce que sans lui, ben, tout ça n'aurait pu avoir lieu non plus. Je tiens également aussi d'emblée à dire combien je suis content finalement d'intervenir ici aujourd'hui, compte tenu des sentiments de respect et d'amitié que j'éprouve à l'égard des autres intervenants. Et donc je voulais les remercier d'exister. Alors sans Rémi Chauvin, il est probable qu'aucun d'entre nous n'aurait été là aujourd'hui. Je crois que c'est assez clair pour tout le monde. Parce qu'il a montré qu'on pouvait être à la fois un universitaire reconnu dans son domaine et s'intéresser aux questions de parapsychologie. Sans René Péoc, nous connaîtrions beaucoup moins la vie des poussins, et des lapins, et des dormeurs. J'ai appris les dormeurs ce matin. Mais surtout, nous ne saurions peut-être pas à quel point la ténacité peut payer. Alors la ténacité en science en général et dans la recherche, en parapsychologie, parce que je n'ose pas penser aux heures de travail qu'il a dû passer à essayer de dresser ces poussins à reconnaître le typoscope. Sans Pierre Lagrange, nous regarderions certes le ciel avec un peu moins de curiosité, puisque je vous rappelle quand même s'il en a assez peu parlé, il est quand même parti de l'ufologie au départ, mais surtout nous n'imaginerions pas que l'on puisse être français, sociologue et se passionner pour les débats touchant au paranormal. Je passe maintenant à ceux d'après-midi. Après l'ouvrage écrit sous la direction de François Laplantine, auquel j'ai eu la chance de participer, qui, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, s'appelait Un voyant dans la ville, il y a déjà bientôt de cela 15 ans, Yves Lignon a été le premier universitaire non lyonnais, parce que je suis de Lyon, à montrer de l'intérêt pour ce travail qui, à l'époque, vous en conviendrez, pour ceux qui le connaissent, n'était pas exempt de risques, essentiellement intellectuels, mais quand même quelques risques, compte tenu de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Mario Margoglis, en daignant accorder quelques crédits à ma façon d'aborder les choses, est venu me donner, quelques années plus tard, une confiance nouvelle, puisque derrière lui se profilaient quelques-uns des plus grands laboratoires de recherche de parapsychologie américain. Je tiens également à le remercier pour sa collaboration active à l'enseignement universitaire que je donne à Lyon et dont je vais vous parler bientôt. Lorsque l'on a choisi de consacrer une partie de son temps à la recherche autour des phénomènes paranormaux, et je préfère toujours maintenant employer le terme de phénomènes dits paranormaux, il est des moments difficiles. Yves Lignon en a sans doute vécu de bien plus difficiles que la plupart d'entre nous. On est le paradigme, presque. Et il y a des moments de découragement, des moments durant lesquels le sentiment qu'il emporte nous amène du côté d'un « à quoi bon ?» Hein. Il y a peut-être du peu de terre contre du peu de fer. Donc on est guetté par tout ça. Et une rencontre, un soutien avéré, viennent en général à point nommé pour nous remonter pour un temps plus ou moins long. Grâce à Bertrand Méost et à sa somnambulisme et médiumnité, je suis reparti pour au moins 50 ans. Déjà une ou deux années vont m'être nécessaires pour lire attentivement l'ensemble de ces 1200 pages, enfin, ces deux tomes de 600 pages, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Je dois avouer d'ailleurs que je vais parler de son ouvrage tout en étant qu'au début, mais j'ai essayé de feuilleter activement quand même l'ensemble. Quel travail et quel encouragement à poursuivre. Je savais que cette œuvre était nécessaire, mais là aussi, quel courage et quelle opiniâtreté. Il fallait que quelqu'un le fasse, c'était lui, et je l'en félicite encore. Pour moi, dorénavant, il y aura eu la vie intellectuelle française avant Méost et la vie intellectuelle française après Méost. Pour moi, il est clair que la psychologie, la psychanalyse, la philosophie des sciences et sans doute la philosophie tout court ne devraient pas sortir indemne de la rencontre avec son entreprise. Mais il parlera tout à l'heure mieux que moi de ce qu'il a fait. Je vous assure que, avant ce jour, nous ne connaissions pas qu'il ne va pas payer et que mon exposé n'est pas que l'introduction du travail de Léas. Je vais parler d'autre chose maintenant. Mais bon, ces remerciements étaient une façon de me resituer un peu et de montrer les liens que j'avais pu avoir directement ou indirectement avec les uns ou les autres. Donc, la suite maintenant va être divisée en trois parties. La première partie, on pourrait la qualifier, l'appeler de « Qui suis-je ?». Donc, je vais avoir à me présenter, puisque si un certain nombre d'entre vous me connaissent, ça n'est pas le cas de tous. La deuxième partie, ce que je fais. Et la troisième partie, quelques considérations plus théoriques, pourrait être sous-titrée « Ce que je pense ». Donc, qui suis-je? Alors, ma position, en réfléchissant aux différents intervenants, m'est apparue un peu particulière, finalement, ici. Non pas qu'elle soit paranormale, je vous rassure, mais en effet, à la différence de Rémi Chauvin, René Péoc, Yves Vignon ou Mario Varoglis, je ne suis pas un chercheur en parapsychologie expérimentale. Même si j'essaie de prêter une grande écoute à ce qu'ils ont à dire depuis de nombreuses années. Et à la différence de Pierre Lagrange et Bertrand Meost, je ne peux pas non plus être considéré comme un chercheur pur en sciences humaines. Pardon à Bertrand Meost, parce que je sais que les philosophes n'aiment pas en général être réduits ou assimilés aux chercheurs en sciences humaines, mais je pense qu'il a bien conscience que son travail va bouleverser les personnes qui travaillent dans ce champ-là. Il a des relents archéologiques de Foucault, et bien sûr que, comme je le disais tout à l'heure, il ne devrait pas en laisser un certain nombre indemne. Alors, pour vous aider donc à me situer et à mieux comprendre d'où s'origine la suite de mon discours, je vais donc essayer de vous dire quelques mots concernant mon parcours professionnel et personnel et son intrication avec mon intérêt pour le paranormal. Alors, je suis psychiatre des hôpitaux. J'appartiens donc au cadre médical le plus officiel et classique qui soit, cadre public, je précise. L'essentiel de ma pratique est pédopsychiatrique, de la psychiatrie de l'enfant, sur divers lieux de consultation. Mon parcours est passé par une formation psychanalytique personnelle qui m'a semblé indispensable à l'exercice de mon métier, notamment dans sa dimension psychothérapie. Mais mon itinéraire médical s'est aussi accompagné d'une formation en biologie humaine par le biais d'une maîtrise, incluant la fréquentation de plusieurs laboratoires de recherche, notamment celui du professeur Jouvet à Lyon, qui travaille sur le sommeil, comme vous le savez tous. J'ai également passé quelques années à fréquenter assidûment le milieu des médecins parallèles, dits parallèles, grâce notamment à une formation en acupuncture. Cet éclectisme et cette curiosité naturelle m'ont conduit à une espèce de parcours et décentrement ethnologique, on pourrait dire, et m'ont conduit à des réflexions ayant trait au domaine de l'anthropologie et de l'épistémologie médicale. De mes interrogations concernant les médecines alternatives à d'autres en lien avec le paranormal, il n'y avait qu'un pas que j'ai franchi de façon en tout cas visible, aussi maintenant plus de 15 ans, à l'aide de ce travail, notamment sur le voyant lyonnais Georges de Bellerive. Alors je dois dire que j'ai toujours été guidé dans ma démarche par le désir de mieux comprendre les mécanismes intimes qui organisent le vivant, et plus particulièrement l'humain. C'est ce qui m'a fait passer de l'homme moléculaire, et Dieu sait si j'ai pu être passionné par le bouquin de Monod, Le hasard et la nécessité au début des années 70, au par-lettre d'un Jacques Lacan. J'aurais pu en rester là. Et Dieu sait s'il y a déjà suffisamment de travail pour qu'ils cherchent à comprendre de quoi nous sommes faits. J'aurais pu camper en l'un de ces deux champs qui vont du gène, et là j'aurais une pensée émue pour Dolly, qui vous savez est en train de vieillir plus vite qu'on ne le pense, plus vite que la science ne l'avait prévu. Parce que c'est une erreur scientifique, je ne pense pas en tout cas. Donc, qui vont du gène à la réalité psychique. Réalité psychique freudienne, du moins. Mais j'avais le sentiment, faudrait-il parler de pressentiment, que le tout humain, entre guillemets, ne tenait pas dans cette double réduction, la molécule et l'inconscient. C'est à partir de là que je me suis tourné vers quelques marginalités théoriques et pratiques qui m'ont conduit à affiner mon intérêt pour l'anthropologie d'une part et le paranormal d'autre part. Si en tant que médecin, je suis spécialiste, en psychiatre, pour ce qui concerne le paranormal, je me considérais plutôt comme un généraliste, étant intéressé tout autant par les aspects expérimentaux que par une approche plus sciences humaines. J'ai sans doute un peu plus eu à réfléchir autour de la voyance, des guérisons alternatives et de quelques phénomènes de poltergeist. Mais ce qui vraisemblablement a donné l'idée à l'organisateur de m'inviter aujourd'hui tient à un enseignement que j'ai mis en place à Lyon, mais c'est maintenant quelques années. Je crois, à l'heure actuelle, être le seul responsable d'un enseignement universitaire en France délivrant une unité de valeur autour de ces thèmes. Et j'en arrive tout naturellement donc à ce que je fais, puisque c'est maintenant de cet enseignement dont je vais vous parler. Alors, mais essentiellement, parce que je vais également parler un peu d'autre chose, mes activités en lien avec le paranormal, pourrait-on dire, sont de deux types majoritaires. Cette activité d'enseignement dont je vais parler, et puis une activité qui rejoint un peu ce qu'ils viennent aborder, de consultation-conseil. Alors, l'enseignement. Des circonstances particulières sur lesquelles éventuellement je pourrais revenir dans le débat si certains étaient intéressés, m'ont conduit à créer aussi 4 ans une unité de valeur donc intitulée science au pluriel, virgule, société et phénomènes dits paranormaux. Cette UV s'inscrit dans le cadre du département de formation humaine de l'Université catholique de Lyon. Il s'agit d'une grande université privée, vous voyez, médecin public, enseignant privé, je mange vraiment à tous les râteliers, jusqu'où l'éclectisme peut conduire, délivrant des diplômes excessivement variés et possédant de nombreux cursus reconnus d'État. Donc ça me paraît intéressant à savoir pour vous, hein. C'est-à-dire que l'université est privée, l'UV par contre peut contribuer à former des gens, je vais revenir ensuite sur les filières, qui au bout du compte auront un diplôme d'État. Ça sera un tout petit bout de leur diplôme, mais ça sera dedans. Alors depuis 1995, c'est environ une cinquantaine d'étudiants que j'ai eu par an, donc multiplié par 4 ans, ça fait à peu près 200 étudiants qui ont suivi le cursus. Alors le département dans lequel j'interviens, le département de formation humaine, en fait, est un département transversal et il délivre son enseignement à l'ensemble des filières de la catho, l'ensemble potentiellement, puisqu'il est transversal et souvent optionnel, donc si vous voulez, viennent ceux qui veulent chercher un certificat optionnel au milieu d'autres certificats optionnels. Mais certains ont obligation d'avoir une UV dans ce cas. Alors, ainsi ai-je parmi mes étudiants des personnes de formation très variées. Donc, je vais vous citer un petit peu les genres de cursus. Donc, doc de psychologie, des sciences humaines et sociales, doc de lettres à civilisation, des étudiants en théologie, étudiants étrangers suivant un cycle d'échange, des techniciens en biologie, de futurs ingénieurs en chimie et en électronique, c'est l'école CPE, peut-être certains connaissent, des étudiants en doc de droit ou en école de commerce. Chaque année se joignent à eux 4 ou 5 auditeurs libres, en moyenne. C'est pas du tout paranormal, c'est les pompiers. Je les laisse passer. Ainsi ont suivi cet enseignement un journaliste, une orthophoniste, quelques retraités, des employés de la catho, administratifs et enseignants, une psychothérapeute, un infirmier, 2 étudiants en médecine, une étudiante terminant en institut d'études politiques, un professeur d'art plastique, une catéchèse passionnée de tarot, ça existe, et une voyante, cette année pour la première fois. J'en oublie sans doute. Alors, comme vous en doutez, il n'est pas toujours évident d'avoir à s'exprimer sur des sujets complexes devant un auditoire varié. C'est le problème du conférencier en général, mais là, il est accru par le fait que souvent ce sont des gens assez jeunes qui rentrent dans les études universitaires, qui ont des bases très variables, qui ont des expériences avec leur professeur de philosophie très variables également. Et comme finalement la tonalité générale de tout est assez épistémologique, c'est pas toujours évident. Mais enfin, j'essaye. Alors cette UV comporte 30 heures d'enseignement. L'assiduité est notée. On est à l'université, mais l'assiduité est notée. J'ai tenu à noter l'assiduité parce que je pense que compte tenu de la non-habitude qu'ils ont à entendre parler de ce genre de choses, il est très important qu'ils soient là. Ils doivent rendre un mémoire à la fin de l'UV, et la note obtenue intervient dans le cadre de leur cursus, soit comme une UV pleine, soit comme une demi-UV, soit comme une UV comme optionnelle, etc. Alors je dispense moi-même la moitié des 30 heures, et je confie l'autre moitié à différents intervenants, mais je suis présent aux 30 heures de façon à pouvoir faire le lien, si vous voulez, entre ce que les uns et les autres peuvent dire de façon à ce que les étudiants se construisent la chose de façon relativement logique au fil du temps. Alors, parmi les intervenants auxquels j'ai fait appel, et qui peuvent varier d'ailleurs d'une année sur l'autre, on compte des philosophes, ethnologues, psychiatres, psychologues, mathématiciens, physiciens, prêtres, psychanalystes. C'est dans ce cadre qu'est intervenu à 3 reprises Mario Arbouglis, et également Philippe Allon, ici présent, vous m'avez la main. Tu veux pas lui la main. Il rigole, quoi. Philippe Allange, je vous rappelle, psychiatre, est chargé de recherche à l'INSERM. Il a récemment écrit un que sais-je sur le thème du paranormal. Pierre Massias, qui nous filme, est venu également une fois, ainsi que Michel-Ange Amorim, qui est, qui t'a levé la main, peut-être, qui est dans la salle aussi, qui est parti. Alors pourquoi avoir créé un tel enseignement? On parle beaucoup de parapsychologie, de paranormal, de phénomènes paranormaux. À travers un certain nombre d'émissions de télévision, les jeunes de notre pays montrent un véritable engouement pour des thèmes aussi variés que l'ufologie, le spiritisme, le fantôme, les anges gardiens, et que sais-je encore. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Pourtant, j'ai été frappé dans les discussions que je pouvais avoir avec les uns et les autres par le grand degré de méconnaissance des travaux scientifiques concernant le paranormal. Et un questionnaire que je fais passer aux étudiants lors du premier cours m'a encore renforcé dans cette conviction. Alors, par exemple, à la question « Pouvez-vous citer le nom d'un ou plusieurs chercheurs s'étant scientifiques s'étant intéressés à la parapsychologie ?» Je limite à 3 maximum. C'est beaucoup 3 pour eux. Donc j'ai plus souvent la réponse « Fox Mulder hein, », c'est-à-dire le héros de X-Files, que Charles Richer. Je crois d'ailleurs que je n'ai jamais eu Charles Richer comme réponse. J'ai eu Freud, par contre, parfois. Alors, parallèlement à cette méconnaissance, le développement du recours avoué aux praticiens du paranormal d'une part, voyants, magnétiseurs, marabouts, etc., ainsi que les risques majeurs de certaines dérives sectaires, comment ne pas se rappeler les récents suicides collectifs, m'ont apparu comme des signes à la fois d'un besoin, mais aussi d'un danger. Besoin d'aller vers un ailleurs de l'officialité, qu'elle soit thérapeutique, politique, institutionnelle, danger d'y perdre sa santé, et sa santé mentale en particulier. Donc, en créant cet enseignement, finalement, j'ai pas tellement eu l'impression de changer de champ, et de rester dans celui qu'on pourrait qualifier au sens large d'une certaine prévention médico-psychologique. Les conditionnements multiples qui pèsent sur l'être humain font de lui un être bien particulier, qui par son inscription dans le champ du fantasme et de la parole, a pour caractéristique de développer une hyper-différenciation. Et ça on l'a bien vu avec les poussins ce matin. Alors des théoques évoquaient, ça, les poussins finalement sont très peu différenciés, ils font à peu près tous pareil. Ceci dit, le poussin surdoué, on aimerait en savoir un peu plus sur sa vie et son œuvre. Hein. Donc il y a bien aussi des différenciations. Mais enfin, l'être humain, on est sûr qu'on est tous comme le poussin surdoué, pas forcément surdoué dans le même sens, mais bon, on est très différenciés. Donc malgré, ou grâce à, je ne sais comment dire, la génétique, vous verrez qu'on retrouvera Dolly plusieurs fois dans mon exposé, je m'en excuse. Donc la génétique, malgré ou grâce à la génétique, l'homme apparaît finalement comme très peu reproductible. Chez l'humain, c'est la différence qui est la règle. Dans notre monde contemporain, ce mouvement n'a fait que s'accroître. Et même si on peut repérer des mouvements massifs et assez partagés, genre les congés payés, les vacances au ski, etc., force est également de constater que le monde des représentations n'a jamais été aussi hétérogène. Je ne sais pas ce qu'on dirait Pierre Lagrange, avec peut-être des fonds communs, mais il me semble quand même qu'en surface, il y a une grande hétérogénéité. En termes de conviction, par exemple, politique, religieuse, voire scientifique, tout et son contraire sont susceptibles de se côtoyer. Nous évoluons dans un gigantesque bazar idéologique que l'on a spontanément tendance à considérer comme étant lié au progrès et en quelque sorte le prix à payer sur l'autel de la modernité et de la démocratie, peut-être. Le paranormal n'échappe pas dans notre culture à cette règle. Et des sociologues, malgré la critique qu'en a fait Lignan tout à l'heure, je vais citer Boisnichard, l'ont montré. C'est-à-dire on peut discuter les questions qu'ils ont posées. Mais ceci dit, ils mettent bien en évidence comment c'est excessivement hétérogène au niveau des réponses. Alors, ils arrivent à dégager les grandes tendances, à faire des recoupements, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, j'étais très surpris, si vous voulez, dans le questionnaire que je fais passer aux étudiants la première fois, de voir par exemple des gens, ce que je leur demande, un petit sondage d'opinion, est-ce qu'ils croient à la possibilité d'existence de la télépathie, la prémonition, la clairvoyance, la psychokinèse. De voir des gens qui mettaient non à tout, et qui mettaient oui à la psychokinèse. Ou des gens qui mettaient oui à tout, et non à la télépathie. Donc j'ai été amusé à faire un peu les catégories, j'ai pas eu le temps de le retravailler, il y aurait un beau travail là-dessus à faire, mais j'étais très surpris par ces réponses, je m'attendais à des choses beaucoup plus tranchées d'un côté ou de l'autre, en termes de mouton-chèvre, comme disent les parapsychologues. Bon, ben là c'était beaucoup plus mélangé, et ça a été une première surprise. Avec souvent ceux qui tiraient du côté de la psychokinèse, qui étaient plutôt les ingénieurs, c'est-à-dire qui étaient sans doute séduits par l'aspect possibilité d'avoir une action sur la matière, et les gens des sciences humaines qui étaient davantage séduits par... La clairvoyance, la prémonition. Alors, voilà, le paranormal, donc, oui, ça s'est déjà dit. Bon, alors, de la richesse qui peut naître de la diversité des opinions, parce que c'est enrichissant d'avoir des opinions différentes, mais de cette richesse, à l'éclatement d'un monde sans repère commun, je crains que l'écart soit faible. Reprenant une phrase de Olivier Reboul, Philippe Mérieux, qui est, vous savez, l'actuel directeur de l'Institut national de la recherche pédagogique, celui qui a l'oreille du ministre Allègre, avançait que ce qu'il est important d'enseigner à l'enfant est ce qui unit et ce qui libère, ce qui permet aux gens de se retrouver semblables en dépit de leurs différences, et ce qui offre la possibilité de maîtriser son propre avenir, de ne pas se laisser manipuler, trois points. La formule de Kant, « ose penser par toi-même », est plus que jamais d'actualité. Je pourrais donner les références, si ça intéresse, c'est le sciences humaines hors série. Donc, cette éthique est un peu aussi la mienne en tant qu'enseignant. En créant cette UP, je souhaitais aider les étudiants à se forger, sur la question paranormale, leur propre opinion. Lors du premier cours, je leur dis d'emblée, je suis là pour vous aider à vous poser de bonnes questions, plutôt que de trouver de mauvaises réponses. Cet enseignement se veut ouvert, ouvert sur les différents discours se tenant et s'écrivant sur le paranormal, y compris critique. Cet enseignement se veut rigoureux. Nous prenons le temps, je leur donne de nombreuses références bibliographiques, nous nous aidons de documents, nous débattons. Cet enseignement se veut serein. Chacun y arrive avec une ou des opinions, et nous savons tous qu'il peut repartir avec les mêmes, en changer en route ou ne plus en avoir d'aussi tranchées. J'ai connu des étudiants prêts à croire à tout, qui ont appris à prendre un peu de distance avec le merveilleux. J'ai connu des sceptiques invétérés, venus me remercier au terme des 30 heures de les avoir aidés à se débarrasser d'un certain regard sur les phénomènes qu'ils qualifiaient eux-mêmes de scientistes. C'est pas moi, c'est eux. J'ai connu des sceptiques restant sceptiques, et j'en suis d'ailleurs assez fier, si vous voulez. Ça veut dire qu'ils ont pu tenir jusqu'au bout et que le débat, dans le cadre de la politesse, mais j'y reviendrai tout à l'heure, a pu avoir lieu. J'ai connu des sceptiques, donc restant sceptiques, mais avouant qu'ils étaient sceptiques d'une autre manière. Tout cela, je le sais par leur confidence, parce que j'essaie de parler avec eux, d'écouter ce qu'ils disent. Et je le sais aussi parce que, à la fin, je leur fais également passer un questionnaire. Et je leur demande de le remplir, c'est-à-dire que s'ils sont là au dernier cours pour remplir le questionnaire, ils ont un point de plus à la présence. 13 scolaires. Donc voilà pour l'enseignement. Deuxième activité, si vous voulez, là je vais aller moins vite, c'est une activité de consultation et de conseil. Donc, elle est plus banale, mais moins personnelle, je dirais sans être pour autant très attendue. Et je pense qu'ici, tout le monde l'a fait un jour ou l'autre parmi les intervenants, aussi bien Vignon, Philippe Ballon le fait aussi. Bien sûr que la façon d'exercer cette activité de conseil va être différente suivant l'origine, suivant le métier d'origine. Vignon, par exemple, s'est toujours fait entouré de psy parce qu'il sait bien que de temps en temps, il y a des choses qui sont à entendre, qui sont du registre du psychologique, quand ce n'est du psychopathologique. Donc cette activité de consultation consiste à recevoir des personnes embarrassées avec une question qui leur semble être en lien avec le paranormal, ou du moins la représentation qu'ils en ont. Ils s'en font. Alors je travaille beaucoup en fait avec plusieurs prêtres exorcistes officiels de l'Église catholique, notamment le père Chaussonnerie, qui est le prêtre exorciste du diocèse de Lyon, qui est quelqu'un d'assez instruit sur les questions parapsychologiques. Et donc, il m'envoie un certain nombre de personnes qui rencontrent des difficultés autour de ce thème. Alors, je vois des gens, effectivement, qui sont très désemparés, souvent, vivant des phénomènes qui les dépassent. Parfois, mon intervention va être un simple coup de téléphone. Parfois, ça va être plusieurs consultations. Parfois, ça va être le renvoi sur d'autres spécialistes. Il m'est aussi arrivé, occasionnellement, de me déplacer chez les gens, mais assez rarement, par manque de temps. M'attarder sur quelques cas cliniques aurait été une autre conférence. Je n'évoquerai donc pas plus ce travail. Je dirais simplement, pour rester dans l'axe, si vous voulez, de mon discours d'aujourd'hui, que j'ai là aussi trouvé la confirmation que c'est bien la méconnaissance qui règne et qui souvent, par le jeu de ce que j'appellerais des représentations diverses et éclatées que véhicule notre culture, parce qu'en général, quand ils viennent me voir, ils ont vu l'exorciste avant. Avant l'exorciste, ils avaient vu éventuellement un désorceleur, ils avaient vu un autre psy, ils en avaient parlé à la voisine qui connaissait une magnétiseuse, etc. Enfin, donc, ils arrivent un peu à bout de course, si vous voulez. Parce qu'ils ont terriblement peur qu'à l'envoi à un psychiatre, le psychiatre pense qu'ils sont fous. C'est une peur classique et partagée, mais encore plus quand les gens vivent des phénomènes non ordinaires. Donc, l'ambiance est souvent assez terrible en termes d'angoisse, et elle trouve difficilement à s'apaiser. Et je peux vous dire par ailleurs que, pour terminer là, que les consultants de l'exorciste, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et à ce que veut bien véhiculer aussi les représentations communes, je dirais, ce ne sont pas uniquement des gens du quart monde, hein, c'est des gens de tout milieu, j'ai vu des cadres, des chefs d'entreprise, ça va de l'ouvrier intellectuel, c'est tout le monde qui à un moment donné dans sa vie devant l'inexplicable peut en arriver là. Voilà, donc j'en arrive à quelques élaborations plus théoriques, donc la partie ce que je pense. Alors, vous aurez sans doute déjà compris que dans les activités précédemment décrites, j'essaie de véhiculer une image de l'homme qui inclut sa dimension paranormale. Et c'est cette conviction, qui justifie le titre de mon exposé, Plaidoyer pour une anthropologie du paranormal. Alors en fait, pour la petite histoire, anthropologie du paranormal, c'était le premier titre que j'avais proposé à la Cato pour désigner l'unité de valeur. Alors la réponse du comité directeur a été de dire anthropologie c'est trop compliqué, ça va pas être assez attractif pour les étudiants, et paranormal ça fait trop parrainage. Je me tourne vers Philippe Pavon parce que c'était un long débat sur le style paranormal. Donc voilà, alors ça n'a pas plu, donc il a fallu que je trouve un autre titre qui personnellement me convient tout aussi bien et qui dit peut-être même mieux les choses, hein, donc science, société et phénomène du paranormal. Et ça a convenu au comité directeur, l'affaire en est restée là, mais j'étais finalement assez content aujourd'hui de pouvoir recycler, si vous voulez, ce premier titre d'anthropologie du paranormal. Alors juste un mot tout d'abord sur le terme paranormal, que je mets entre guillemets. Il me semble que, si vous voulez, il a l'avantage, pour mon propos du moins, de ratisser plus large que celui de parapsychologique. Il inclut le parapsychologique, mais bien sûr il le dépasse. Et en même temps, il n'a pas ce côté péjoratif qu'il y a dans parascientifique. Donc il s'agit de partir finalement de ce qui est considéré culturellement comme paranormal, de ce qui est rangé par la culture dans le paranormal, plus que de ce qui scientifiquement devrait s'y trouver. À partir du moment où on commence à dire ça c'est ça, on fait des taxinomies, on commence à nommer, c'est intéressant dans le cadre d'un projet de recherche. Effectivement pour les poussins il faut bien essayer de savoir si on cherche à voir la psychokiné, la précognition, donc là on est dans la précision. Mais quand on essaye de débattre de l'ensemble de ces sujets, je pense que le flou finalement entretenu par le terme de paranormal n'est pas plus mal. Ça n'empêche pas, après, à l'intérieur de l'enseignement, de faire des distinguos, de distinguer pour unir, pour reprendre la formule de Jacques Maritain, philosophe chrétien du début du siècle. Voilà. Donc on peut assez tranquillement, finalement, en termes généraux, en termes de débat, parler par exemple d'un vécu paranormal, sans préjuger de la nature de ce vécu. La dame blanche, par exemple, quelqu'un a vu une dame blanche. Ben voilà. Je suis désolé, quelqu'un a vu une dame blanche. Ah, ben moi j'en connais un autre, il en a vu une. Ah, ben lui, elle était noire. Ah bon. Donc on peut commencer à discuter, on ne dit pas, la dame blanche existe. Alors, le terme, au sens micro du terme. Alors que le terme parapsychologie situe d'emblée, si vous voulez, la question au niveau de la preuve. Loin de moi l'idée que la question de la preuve ne soit pas essentielle pour le débat. Mais il me semble que si on veut d'emblée poser les choses sereinement, et surtout les resituer anthropologiquement, dans un contexte très large, qui inclut d'autres dimensions historiques, philosophiques, sociologiques, etc., etc., le terme paranormal n'est pas si mal que ça. C'est finalement le terme métapsychique du début du siècle. Toujours pour m'expliquer sur mon titre, pourquoi plaidoyer ? Y aurait-il à défendre ou à créer une nouvelle discipline? Certainement pas, car l'anthropologie, par définition, en elle-même, permet une approche très large de tout phénomène humain. Voici ce que dit François Laplantine dans l'un de ses ouvrages. Je vous cite. « Ne peut être considérée comme anthropologie qu'une démarche intégrative visant à prendre en considération les multiples dimensions de l'être humain en société. Certes, l'accumulation des données recueillies à partir d'observations directes conduisent nécessairement à une spécialisation du savoir. Il n'empêche que c'est l'une des vocations majeures de notre approche, je souligne le terme approche, c'est pas lui, que de ne pas procéder au morcellement de l'homme, mais au contraire, de tenter de relier des champs d'investigation qui se donnent habituellement comme séparés. C'est la définition d'anthropologie, ça pourrait être la définition de la parapsychologie anthropologique que je propose. Et notez qu'il dit bien approche, ce que moi j'ai entendu ne dit pas discipline, qui sous-entend que, finalement, il laisse la porte ouverte à des gens qui ne seraient pas anthropologues de formation, de faire de l'anthropologie. Et je m'y engouffre. François Laplantine rappelle ensuite, dans le même ouvrage, que l'anthropologie culturelle, c'est-à-dire l'ethnologie, n'est finalement qu'une branche d'une anthropologie beaucoup plus large, dans le sens premier et exhaustif du terme, qui inclut également, dans le sens premier de l'anthropologie biologique. C'est-à-dire que, quelque part, l'anthropologie, dans cette a aussi à voir avec le réel. Et là, quelque part, ça rejoint, je crois, ce que disait Permégrand, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi d'aller voir les laboratoires, il s'agit aussi d'aller voir sur le terrain et d'aller comparer, d'aller essayer de comprendre ce qui se passe réellement, pas simplement de travailler sur les fantasmes des chercheurs. Le morcellement actuel de l'anthropologie est à l'image de la spécialisation, de la parcellisation des sciences humaines, là ça nous renverra au titre des thèses, comme des sciences exactes d'ailleurs, en une multitude de spécialités qui ne sont souvent d'ailleurs plus comprises que par une poignée d'initiés. Moi j'ai absolument rien contre la parenthèse, je suppose, et encore moins contre le point virgule, mais c'est vrai qu'on pressent bien que derrière la qualité du travail, qui si la thèse est obtenue, doit être indubitable, que ce n'est pas tous les jours que la personne va rencontrer dans une réunion de salon ou au café du commerce quelqu'un avec qui il va pouvoir aborder la question. En même temps, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas une raison pour que ça ne se fasse pas. Hein. Mais je reviens à cet exemple pour montrer que c'est vers ça qu'on va, hyper-spécialisation. Si ce mouvement comporte de nombreux avantages, en termes de crédit, en termes d'enjeux institutionnels, d'hiver, de repérage, je suis celui qui s'occupe de la parenthèse, on sait à quoi parle. Et aussi en termes de progrès de la connaissance, parce que quand même, l'analytique, ça nous apporte quand même des choses. Il présente également quelques inconvénients. Chacun planche sur sa paillasse, ou sur son ethnie, et la synthèse, même si elle doit être limitée et partielle, se fait difficilement. Les congrès sont de plus en plus spécialisés, et chacun plaide pour sa paroisse. Et son crédit. Le problème, dans les deux sens du terme, le problème tient aussi au fait que le chercheur de laboratoire, celui qui est sur la paillasse, est aussi porteur d'une anthropologie. Les récents débats éthiques autour des questions posées par les manipulations génétiques, je vous avais dit qu'on retrouverait Dolly, nous montrent qu'à ne considérer que l'homme cellulaire, on se fabrique une anthropologie sans homme, ni plus ni moins. C'est le risque que pourrait courir la parapsychologie expérimentale, sauf que les parapsychologues expérimentalistes savent ça. Ils sont sans doute en avance sur leurs confrères biologistes. Avec le paranormal, on se trouve le plus souvent à réfléchir simultanément à toutes les dimensions de l'humain. On part d'un discours, des poltergeists vécus par une famille, on passe par une enquête de terrain, et on termine au laboratoire de Jan et Dunn, ou au laboratoire de l'EPOC, sur les expériences de micro-PK où on confrontait des antigoscopes et des poussins. Le paranormal, l'étude sérieuse du paranormal, implique ce va-et-vient permanent entre les données issues de sources scientifiques hétérogènes. Vous voyez, Pierre nous propose d'être poli, moi je vous propose d'être sérieux. Parce qu'il retourne de vieille valeur. C'est en cela qu'une authentique anthropologie du paranormal ne peut être réduite à l'anthropologie religieuse ou médicale, par exemple. En revanche, elle ne peut se passer des travaux issus de ces autres courants. Et cela par une forme de nécessité ontologique inhérente à son objet d'étude. Le paranormal est toujours inscrit culturellement. Son expression à une époque donnée est hautement conditionnée par les représentations dominantes. Alors on a des somnambules, pour ne parler que des disparaissantes, on a des somnambules au 19e siècle, on a des médiums à effet physique, les ectoplasmes au début du siècle, on a des spirites qui sont à cheval sur les deux, et puis là on a des cabinets de consultation de voyants, pardon, et puis des gens qui vivent des NDE ou qui voient les soucoupes blancs. Bon, est-ce que par hasard, on n'aurait pas là quelque chose qui serait du côté de l'inscription d'une même base, d'un même noyau dur parapsychologique dans la culture? Le paranormal, et puis voilà, pardon. Étudier le paranormal, c'est donc savoir en retrouver les expressions aux différents temps historiques et aux différents lieux ethnographiques. Et notre propre culture ne peut aucunement échapper à ce regard. Elle n'a pas à se situer au-dessus de ça. Elle est dedans, et dans la façon dont on doit aborder le paranormal, on doit aborder la façon, les lieux où il apparaît, les lieux où il est censé apparaître, les lieux où il est censé ne pas apparaître, et ce qu'en disent les différents protagonistes. Et là, je rejoins un peu plus Pierre Lagrange sur cette manière de voir les choses. Nombreux sont les ethnologues qui se sont montrés surpris des prouesses ou des compétences de tel chaman, de tel homme médecine. Mais leur absence de formation aux données parapsychologiques, pour la plupart d'entre eux, moins, les empêche le plus souvent, hormis quelques exceptions notables, Ernesto de Martino, Christine Hardy, etc., etc., François Laplantine, une fois de plus, les empêche de relier transculturellement ces phénomènes entre eux. Ce qu'ils n'auront, en revanche, pas de difficulté à faire pour des phénomènes plus courants, manger, dormir, éduquer, chasser, etc. L'étude du paranormal ne peut se passer de l'anthropologie, et l'anthropologie, dans son projet global, tel que je vous l'ai annoncé tout à l'heure, ne peut se passer du paranormal. Développant son projet d'une anthropologie fondamentale, voici ce qu'avance Edgar Morin. peu de disciplines présentent autant d'équivoques que l'anthropologie, écartelée entre ce qu'elle est et ce qu'elle devrait être, entre son visage du passé et son visage du futur, entre la science du même et l'observation de l'autre. L'anthropologie est évidemment la science de l'avenir, mais cela signifie aussi qu'elle n'existe pas encore en tant que vraie science de l'homme. L'une des premières tâches de qui s'intéresse à l'avancée d'un projet anthropologique d'envergure. Est-ce que l'une de ces premières tâches n'est pas, à une époque donnée, de faire l'inventaire de ce qui risque de se trouver laissé pour compte par l'idéologie dominante? L'anthropologie qui s'est progressivement constituée au fil du siècle s'est appuyée sur le psychisme naturel, entre guillemets, dans lequel nous baignons, comme l'écrit Bertrand Meyers, au sein d'un monde mental qui a contribué à faire apparaître une image moyenne de l'homme et de ses facultés. Tome 1, page 114 de Bertrand Meyers. La question que pose la prise en compte du paranormal à l'anthropologie est donc essentielle. Il s'agit de savoir si cette dernière saura se montrer apte à intégrer dans son champ et ses raisonnements l'inhabituel, l'exceptionnel et l'incongru que représentent, du moins pour notre culture, certains phénomènes dits paranormaux. C'est toujours le même Bertrand Meyers qui montre magistralement comment c'est bien la mise en réduction du scandale qu'a pu représenter le magnétisme en son temps, c'est-à-dire au milieu du XIXe siècle, qui a permis le développement de la psychanalyse. Mais ce développement, centré, pourrait-on dire, sur un inconscient moyen, s'est fait au détriment de la dimension non ordinaire, paranormale, métapsychique, parapsychologique, peu importe le terme en première approximation, qui constitue pourtant une partie non négligeable du tout humain. En préparant cette conférence, je parcourais une fois de plus un vieux numéro de, peut-être certains connaissent, de la revue La Tour Saint-Jacques datant de 1956. Mircea Eliade et Ernesto De Martino débattaient déjà de façon très élaborée de ces questions. Et voici ce qu'écrivait un dénommé Pierre Barucan. On peut parler d'une crise infantile de la parapsychologie. La première tâche à accomplir était de prouver qu'elle avait le droit à l'existence. On peut estimer qu'à l'heure actuelle, cette preuve a été fournie. 1956, il y a des optimistes. Et si elle se heurte à des objections, celles-ci sont de nature a priori. Aucune preuve nouvelle confirmant purement et simplement les résultats antérieurs ne pourra ébranler une conviction de nature ontologique et métaphysique. Le moment est venu de dépasser cette crise infantile. Ce dépassement peut être, doit être et sera le passage de la parapsychologie psychologique et de la parapsychologie physique, allusion sans doute aux travaux de Mayer, Podmore, la fin du siècle d'avant, puis à ceux de Richer, plus récents. Donc ce dépassement passera par le passage de la parapsychologie psychologique et de la parapsychologie physique à une parapsychologie anthropologique. Il est nécessaire et impérieusement nécessaire de passer de la parapsychologie enfermée dans la culture à la parapsychologie métaculturelle. Le problème, à vrai dire, se pose déjà pour la psychologie et, comme l'a montré Malinowski, pour la psychanalyse. Je cite toujours Barucan. Mais ce qui est souhaitable pour les disciplines à peu près intégrées à nos normes culturelles devient indispensable à une science mal intégrée à ces normes. Ce devient alors une condition de vie ou de mort. Inversement, beaucoup de problèmes anthropologiques seront résolus quand on pourra dire, à propos d'une culture, ce qui est légende et mythe, voire préjugé, superstition, d'une part, et d'autre part, ce qui est vrai, et là suivez bien, vrai, soit de façon tout à fait objective et matérielle, soit vrai comme expérience vécue et subie. Il n'est pas indifférent que quelque chose soit cru par quelqu'un sans preuve, ou soit ressenti comme expérience vécue, ou soit objectivement et physiquement vrai. Toute suspension du jugement, toute mise entre parenthèses sur ce plan ne peut au mieux que revêtir un caractère provisoire. Trop souvent, elle n'est qu'un alibi pour échapper à une alternative gênante. L'alternative gênante, c'est donc d'essayer d'aller voir ce qu'il en est vraiment du phénomène. Donc il propose la mise entre parenthèses, et d'une certaine manière, cette mise entre parenthèses a duré 40 ans. Que s'est-il passé, ou plutôt que ne s'est-il pas passé, pour que plus de 40 ans plus tard, j'ai le sentiment de venir redire à peu près les mêmes choses que Pierre Barucan. Cet appel à une anthropologie parapsychologique n'a donc pas été entendu, ou si peu qu'il faille le répéter, avec quel espoir d'être entendu cette fois-ci? Je vais vous proposer, donc avant de terminer mon exposé, de tenter d'avancer un peu, je suis dans les temps, d'avancer un peu dans la réponse à ces questions, et d'essayer de poser quelques jalons pouvant nous aider à éviter que dans 40 ans, quelqu'un d'autre vienne à nouveau tenir le même plaidoyer. Alors je vois deux raisons majeures à l'origine de ce fait. La première, à l'origine du fait que, apparemment, les choses n'ont pas bougé, et que le débat, science par science, qui avait été évoqué, est toujours en cours. C'est là que je vais t'amener sans doute à redire des choses déjà évoquées. La première concerne le traitement que les milieux intellectuels ont cru bon, à leur majorité du moins, d'accorder à certains phénomènes réputés aux marges de la science et aisément qualifiés de parascientifiques. Sous couvert, d'ailleurs, en général, le plus souvent d'un amalgame, c'est déjà un terme que j'employais dans Le Voyant dans la ville, qui me paraît pas très scientifique. C'est un mode de prise en charge centrifuge du déchet que s'est livré l'intelligentsia, trop occupée, par ailleurs, avec querelle intestine, entre matérialistes, structuralistes, marxistes, relativistes, etc. Et là, je vous renvoie à messieurs Sokal et Brickman et à leurs impostures intellectuelles. Et c'est en général, curieusement, et ça c'est encore d'actualité, j'ai pu le vérifier il n'y a pas si longtemps, sur le dos des parasciences, de ce qu'ils qualifient de parasciences, que ces différentes tendances au moins se rejoignent. C'est-à-dire, nous ne sommes pas d'accord entre nous, mais au moins nous sommes d'accord sur un point, c'est que, bien sûr, si on lit Chalmers, Stengers, ou plus récemment Stephen Chaplin, déjà cité ce matin, notamment dans un des derniers numéros de la recherche sur le débat autour de l'antiscience, on en déduit qu'il faut être sacrément sûr de soi pour se faire une idée de ce qui est parascientifique, étant donné que ce qui est scientifique semble, dans sa définition, ne pas faire l'unanimité et poser de plus en plus de problèmes. Alors il faudrait, bien sûr, si on partait d'une histoire épistémologique, accorder beaucoup plus de temps que je ne pourrais faire la question de la méthode et de l'objet, ça a été transversalement apporté par chacun d'entre nous. Pour ce qui concerne le paranormal, la méthode, finalement, importait peu aux élites, puisque l'objet lui-même était nuisible. Et cela nous conduit à la deuxième raison pour expliquer cette immobilité de 40 ans. Donc la première raison, les milieux intellectuels, le rejet. La deuxième raison, l'insoutenable complexité de l'objet paranormal. Si Milan Kundera me permet cette paraphrase dans son titre de recherche. L'insoutenable complexité de l'objet paranormal. Témoignage abracadabrant, expérience difficilement reproductible, nécessité de références complexes aux différentes sciences existantes, flirt avec certaines approches spiritualistes, pluridisciplinarité obligatoire, absence de théorie unifiée, interpellation du concept même de science, le paranormal est insupportable pour notre époque d'hyperspécialisation, de saucissonnage obsessionnel et de contrôle qualité. Les scientifiques ne rêvent la plupart du temps que d'un objet bien peaufiné, localisable, reproductible à l'infini, une race pure de rat de laboratoire. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour un scientifique qu'une race pure de rat de laboratoire ? Mais ça peut être aussi plus subtil, ça peut être aussi des effets de l'inconscient, mais repérables, des relations d'objets qu'on peut quasiment mettre en boîte, pour parler de psychologues et de psychanalystes. Les sciences humaines rêvent de singer les sciences exactes. La médecine ne sait plus qu'elle est une science humaine. Il faut le culot d'un Tobinathan pour interpeller les prétentions des psychopathologistes. Comment vendre du paranormal, entre guillemets, dans ce concert de réduction en tout genre, réduction contraphobique, c'est-à-dire pour éviter d'avoir peur, mais tellement efficace pour la tranquillité d'esprit. Pour tenter de dépasser ces écueils et essayer d'éviter de revivre les mêmes 40 ans, je vous propose de poser un certain nombre de prérequis qui me paraissent absolument indispensables pour qui veut mettre en débat les questions qui nous occupent aujourd'hui. Ces prérequis, je les regrouperai sous deux rubriques. La première, éthique, et la deuxième, épistémologique. Éthique. Je proposerai volontiers une position éthique de base qui serait située à l'opposé de celle qui qualifie les croyants au paranormal de gogo. Marianne Dury, dans un ouvrage récent consacré au débat médiatique sur les parasciences, a bien relevé le terme. Elle a fait un travail sur les débats télévisés. Et c'est un terme qui revient aussi bien à la télévision que dans certains écrits. Ce genre d'expression, car il peut y en avoir d'autres, on passe assez vite par de gogo à gaga. Qui confine à l'invective est d'autant plus regrettable qu'elle est généralement proférée par des personnes se qualifiant elles-mêmes de rationalistes. Plaidant volontiers par ailleurs les vertus de la libre pensée, de la tolérance à l'égard des exclus et de bons sentiments démocratiques. À supposer que le terme gogo dise, avec mépris certes, mais dise quelque chose de vrai en lien avec ce qui serait une supposée crédulité de nos concitoyens. Je ne crois pas que ce type de désignation fasse évoluer les représentations populaires. Bien au contraire, en enfermant ainsi l'abruti désigné, d'après les sondages, entre parenthèses, et suivant les thèmes, une bonne moitié de la population française serait à classer dans cette catégorie des gogos. Donc on n'est pas tout seul, ça fait du monde. Donc en enfermant ainsi la moitié des ignis, le scientiste, parce que je ne vois pas, j'ai beaucoup appris, je ne vois pas quel autre terme employer, si vous voulez, là, se construit un monde finalement coupé du reste du monde. Au lieu d'engager un possible échange, il est évident que son approche du sujet, là le sujet est à prendre dans tous les sens du terme, a plutôt tendance à rendre toute une partie de nos concitoyens méfiants à l'égard des élites. Et je pense que nous vivons dans une culture qui est déjà suffisamment méfiante à l'égard des élites. Si les scientifiques se mettent à en rajouter, c'est pas super. Alors bien sûr, je ne me retrouve pas non plus dans certains discours tout aussi sectaires et tout aussi réducteurs que tel gourou, tel mage ou tel désorceleur pourra l'occasion de venir tenir sur la même chaîne de télévision. Mais au moins ne parle-t-il pas du haut de l'autorité de la science. Il ne parle en général qu'en son nom. Ces deux rhétoriques complémentaires ont besoin l'une de l'autre. Leur structure est la même, puisque dans les deux cas, il s'agit de se construire un persécuteur pour mieux défendre sa vérité, toujours absolue. Pour ce qui me concerne, je dois avouer que bien des inconnus persistent autour d'un certain nombre de phénomènes pour moi, tant dans leur manifestation, dans leur réalité, que dans leur explication. Simplement, il me semble qu'en se donnant le temps d'en faire le tour, on voit clairement se dessiner quelques tendances, quelques lignes de force, quelques particularités phénoménologiques transculturelles qui permettent parfois de dégager un noyau dur anthropologique concernant par exemple la voyance, la communication avec les défunts, la prémonition, etc. Donc ça, c'était des prérequis éthiques qui ne sont rien d'autre que la politesse qu'évoquait Pierre Lagrange, je crois, ce soir. Mais ça, je crois qu'il faut l'exiger de tout le monde. Il faut la souhaiter de tout le monde. Aussi bien des critiques envers ceux qu'ils appellent les gogos, que des gens du champ de la parapsychologie, qui effectivement ont peut-être un peu plus de raison qu'eux d'être persécutés parce qu'ils sont moins nombreux. Mais il faut tenir cette position de politesse et d'éthique pour pouvoir faire son trou quelque part et montrer que le débat est possible aussi avec nous. Donc deuxième point, épistémologique. Deuxième raison. Alors, je vais partir d'un point de départ, je m'en excuse, qui est vraiment d'une simplicité extrême, mais dont l'évidence me paraît rappeler. À moins de se faire le partisan d'une théorie révélée, il me semble que là, à ce moment-là, on est du côté de la religion, on n'est plus du côté de la science, quelle que soit la définition qu'on donne à la science et à la religion. Donc à moins de partir de ce point de vue, qui est par ailleurs éminemment respectable, il me semble que si l'on veut avoir une opinion sur quelque chose, quel que soit l'objet sur lequel on fixe son choix, il faut s'y intéresser. Et plus on prétend avoir une opinion argumentée, plus nous avons à nous y intéresser de près. C'est ce que Rémi Chauvin appelle depuis longtemps, tout simplement, concernant la parapsychologie, la connaissance du dossier. Argument d'autorité, disent certains. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas dire à quelqu'un, vous ne connaissez pas le dossier, quand effectivement, on sent qu'il ne connaît pas le dossier. Vous viendrait-il à l'idée d'aller discuter la forme des chromosomes, de dire, mais non, attendez, vous êtes trompé, la 15e paire, elle n'est pas comme ça, elle a les trois longs en haut, c'est pas du tout ça. Avec un généticien, sans avoir jamais vu vous-même le moindre karyotype de votre vie, ne serait-ce qu'en photo. Vous me direz en général, les karyotypes, on les voit en photo. Eh bien, je peux vous assurer que concernant le paranormal, mais ça vous le savez tous, ce prérequis d'évidence est bien souvent ignoré. Chacun y est prêt à l'aide de son opinion, n'hésitant pas à balayer des années de réflexion et d'accumulation de connaissances. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, arrive l'éthique, parce que face à ça, c'est d'emblée l'agressivité que ça déclenche. Chez celui qui pense qu'il en sait un peu plus long. Et bien, je pense qu'il faut qu'il reste calme et qu'il donne quelques références de l'université et qu'il dise ben, c'est très bien, tu as le droit de penser ça, je ne pense pas ça. Et à ce moment-là, parfois, peut-être le débat peut s'instaurer. Je l'ai vécu à l'Université catholique de Lyon, j'ai vu des étudiants complètement changer de point de vue dans la mesure où on pouvait discuter tranquillement. La position des quelques critiques de la parapsychologie qui, après avoir pris connaissance de ce qui reste des incroyants, pourrait-on dire, est tout à fait constructive s'ils sont allés au bout de la connaissance. Cette position a permis de nombreuses avancées, et Pierre Lagrange m'a évité de vous reparler de la controverse Heinemann-O'Norton, qui est effectivement un bel exemple de réussite d'intégration du point de vue du critique dans le discours du favorable. Alors certes, la difficulté avec le paranormal, c'est sa grande complexité et les compétences multiples que demande son approche scientifique. Compétences minimales en sciences humaines et sciences expérimentales. S'approcher de l'objet paranormal implique donc un travail de formation complémentaire à minima que le chercheur, quelle que soit sa formation de départ, a forcément à faire. Et que les extrêmes que j'évoquais précédemment se caractérisent par le fait justement que ce travail ne le font pas. Et ce travail commence au niveau de ce que je qualifierais d'expérience de base. Quelques exemples très très simples aussi. Vous aider à voir de quoi je parle, si tant est que vous n'ayez pas vu encore. Peut-on sérieusement parler de voyance sans jamais avoir rencontré de voyant, sans jamais avoir échangé avec des consultants réguliers, sans jamais avoir lu des ouvrages contradictoires sur la question? Comment peut-on penser le possible et l'impossible sans rencontrer ceux qui pensent vivre ce qui est impossible à nos yeux? Est-ce parce que dans sa propre vie, on a toujours trouvé réponse à tout et explication convenable à ce qui pourrait paraître extraordinaire à d'autres, qu'il faut considérer que ce qui arrive aux autres est forcément du même ordre que cet extraordinaire explicable par nous? J'espère que vous m'avez suivi ma phrase de juge. Derrière toutes ces questions, un maître mot se dégage, celui de l'expérience. Ai-je l'expérience nécessaire pour prendre position sur tel ou tel sujet? Ne vaudrait-il pas mieux que je... Et j'en ai bientôt terminé. Il existe un lieu au plus profond de l'homme, et ce n'est pas un lieu anatomique, où se fabriquent ses convictions, ses représentations, sa vision du monde la plus intime. Ce lieu, source de toutes les prises de position idéologiques, pourrait se voir comme un socle de l'ordre de la vérité personnelle, et à ce titre, absolument indémontrable, pour un socle on pourrait dire indémontable, hypothétique et irrationnel. C'est toujours aussi, ce socle, c'est toujours un pari. Concernant la meilleure façon de penser et de configurer le monde, on peut parier sur un certain type de rationalité qui ne jure que par l'expérience reproductive. C'est en s'appuyant sur ce socle que notre récente civilisation a pu tant avancer et produire. Pourtant certains, rationalistes à l'occasion, pour ce qui est des idées du moins, vivent à l'occasion d'autres types d'expériences, moins aisément reproductibles, mais qui leur paraissent tout aussi réelles. Ils rencontrent d'autres personnes qui leur racontent des expériences similaires, puis d'autres encore, etc. Très peu parmi eux délirent. Et puis il y a ceux qui pourtant, appartenant au même monde des humains, n'ont jamais le sentiment de vivre de telles expériences. Sans doute sont-ils, et ça je crois que c'est toujours important à rappeler, depuis qu'il existe des humains, une forme d'exception culturelle. Le plus souvent, ils ne le savent pas qu'ils sont une exception culturelle, parce qu'ils ignorent les autres cultures, et cela même si parfois même d'autant plus qu'ils pensent les connaître. La plupart des humains ont cru, et croient encore, à l'existence de complexités invisibles, qui parfois nous dépassent, tout en restant difficilement qualifiables et mesurables. Cela dit, et les témoignages par exemple de MDE le montreraient bien, mais il y en aurait tant d'autres, il suffit parfois d'une expérience non ordinaire dans une vie pour faire vaciller le socle scientiste le mieux établi. J'en ai reçu plusieurs fois témoignages, et dans l'ouvrage que nous avions fait, le sociologue Richard Alouche a mis plusieurs années à se remettre de sa rencontre avec Georges de Bellerive, il avait complètement déstabilisé de sa position de matérialiste, rationaliste, standard. Conclusion. La question au double versant éthique et épistémologique qui se pose à nous est de savoir finalement si la cohabitation dans la même société est possible entre ceux qui pensent avoir d'une façon ou d'une autre fait l'expérience du paranormal, et faire cette expérience, ça peut être subjectivement son fort intérieur, ou objectivement, au laboratoire, ou au travers de la lecture d'un livre, et ceux qui ne pensent pas l'avoir faite. Je crois que là, il y a la césure entre science et parascience, que Pierre Lagrange nous propose de dépasser par la notion de controverse. Ça paraît très, très, très intéressant. Mais je pense qu'il y a une autre césure à voir, qui est entre ceux qui ont vécu le paranormal et ceux qui ne l'ont pas vécu, en termes d'expérience et d'expérience conviction personnelle, c'est-à-dire que dans leur fort intérieur se disent c'est une chose possible et ceux qui se disent c'est une chose qui n'est pas possible. Je rêve d'un institut de recherche donc où grâce à un minimum de respect pour l'éthique et un minimum culturel commun pour l'épistémologie, on pourrait trouver à deux étages différents des chercheurs ouverts au paranormal et des chercheurs se disant sceptiques. Pecker, porte A, Lignon, porte B. Cela ne les empêcherait pas par exemple d'aller prendre un café à l'heure de la pause, se retrouvant peut-être par ailleurs sur une même passion commune, le jazz peut-être, ou la danse contemporaine si c'était Mario, ou le vélo si c'était moi. Car le paranormal, ce n'est pas tout dans la vie, hein, ne l'oublions pas. les temps ne sont visiblement pas encore venus, et j'en prendrai pour preuve la possibilité dans laquelle s'est trouvé Grégory, en organisant la présente journée, de convaincre un sceptique de venir y développer son point de vue. Dans 40 ans, peut-être. Merci. Il n'y aurait pas, dans un milieu de gens susceptibles de s'intéresser à la parapsychologie, il y aurait des réponses très différentes. Donc il me semble que, voilà, moi j'observe ça simplement, et d'une certaine manière, j'essaye un peu de lutter contre ce mouvement-là, c'est-à-dire en pensant que, du moins, pour ce qui concerne le paranormal, il me paraît utile de réintégrer ce que j'appelle un minimum culturel commun. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, tout et son contraire s'écrit, et il me semble que ça ne fait pas bien avancer le débat. Mais... je pense aussi qu'il ne faut pas rajouter trop d'huile sur le feu. Alors chacun a son tempérament, Yves. Mais voilà. Tout à fait. Oui. Oui, non, mais tout à fait. Non, mais je comprends bien que chacun.
Je conçois qu'il s'agit d'une affaire pour le Sénat, une personne, ça n'a pas valeur de suggérer.
Alors, il y avait Christine Hardy, puis ensuite...
Oui, c'était par rapport au début de ton exposé sur l'évolution vers une hyper-spécialisation. Je pense que c'était juste jusqu'il y a à peu près 15 ans. Il y a quelque chose de très très nouveau maintenant qui est en train de se passer. Et alors, on voit ça rétrospectivement, mais en fait, ça fait déjà au moins plus de 15 ans déjà. C'est que, et c'est très très intéressant, c'est que tous les nouveaux domaines de recherche scientifique qui sont les domaines de pointe, que ce soit sciences exactes ou sciences humaines différentes, sont tous pluridisciplinaires. Alors, il est vrai que ça a commencé avec la théorie des systèmes, vers les années 70, vers la fin de 60. Après, la parapsychologie est de fait devenue un domaine pluridisciplinaire parce qu'il n'y avait pas de département de parapsychologie à l'époque. Donc les gens venaient de tous les scientifiques venaient de tous les champs de recherche.
Ça fait un phénomène.
Psychologie, mentale, etc. Mais tous les nouveaux domaines, théorie du chaos, tous les nouveaux développements dans la théorie des systèmes complexes, ensuite toutes les nouvelles sciences de la complexité, tout ce qui apparaît maintenant et qui a un énorme potentiel au niveau de la science actuelle, tous ces domaines systématiquement sont pluridisciplinaire. On a vraiment l'impression que c'est une des marques du nouveau paradigme scientifique et de façon très intéressante dans tous ces gigantesques congrès maintenant sur les sciences de la conscience aux États-Unis, on voit tous les champs de recherche, de la physique quantique jusqu'à l'informatique, intelligence artificielle, vie artificielle jusqu'à la philosophie. Et on voit là qui, les parapsychologues, qui sont invités à donner leur opinion sur la conscience, au même titre que les autres. Et c'est quelque chose d'absolument nouveau qui est en train de se passer. Et je pense que vraiment l'hyperspécialisation, c'est la science du 20e et du 19e. Hein. On est en train de complètement se retourner.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, dans le cours avec Eto que je donne moi-même sur l'épistémologie paranormale, donc je fais un peu l'inventaire de ce qui faisait la science d'antan, on peut dire, avec tous les ismes qu'il pouvait y avoir, matérialisme, etc. Et on voit bien comment la science actuelle ne campe plus sur ces mêmes positions et que la pluridisciplinarité est quelque chose qui est souhaité. Elle est souhaitée, il me semble qu'elle commence à arriver. De là à ce qu'elle soit efficace, c'est peut-être autre chose. En tout cas, ce qu'il y a de positif par rapport au paranormal, je dirais, c'est que la pluridisciplinarité, ça conduit en général le scientifique à un peu d'humilité. Alors c'est peut-être la fissure dont vous parlez, Mignon, tout à l'heure aussi, l'impression que les choses se fissurent, c'est que le paradigme en a pris un bon coup quand même. Hein. Alors il y a de violentes réactions, hein. On voit des gens justement comme Sokal et Brickman qui se cabrent, bon, qui réagissent, qui... Il y a l'autre bouquin évoqué aussi, là, les sirènes de l'irrationnel. Donc, on sent bien qu'il y a un débat épistémologique très important. On ne sait pas qui va l'emporter. La pluridisciplinarité fait partie des nouvelles façons de concevoir la science. Et c'est en marche. Et ça va ouvrir des portes, de plus en plus de portes.
Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant aussi à voir. Enfin, moi, c'est un jugement que je porte sur la parapsychologie. Et je l'ai vraiment découvert aux États-Unis, dans le laboratoire de Princeton. Donc c'était vraiment l'aspect le plus mainstream et le plus conventionnel de la parapsychologie, qui m'apparaissait déjà conventionnel à l'époque. Et en fait, j'ai l'impression que les parapsychologues, parce que ça a été un champ de recherche, alors c'est vraiment une façon de voir les choses très sociologique, mais parce que la parapsychologie a été un champ de recherche très critiqué et sans arrêt en guerre avec des sceptiques qui regardaient les expérimentations, les protocoles, les statistiques et compagnie, le Riemann, Norton, comme vous avez dit tout à l'heure, ce champ de recherche est devenu un champ stressé qui s'est, à mon avis, refermé un peu sur lui-même. Par exemple, je prends un exemple très très simple. Il est impossible, à mon avis, de faire une théorie du psy qui ne soit pas basée sur une théorie globale de la conscience humaine et de la façon dont fonctionne l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une théorie d'un phénomène psy qui ne soit pas, puisqu'on sait maintenant que ce n'est pas les esprits, on sait très bien que c'est la conscience qui crée le phénomène psy, qui les produit. Et une théorie du psy ne peut pas être en dehors d'une théorie de la façon dont fonctionne l'esprit. Et ça, ça va dans le sens de quelque chose qui est beaucoup plus synthétique, holistique, global, et non pas dans le sens des petites recherches psy qui sont critiquées, on essaie de répondre dans des domaines d'interaction extrêmement limités. Et alors que si les parapsychologues eux-mêmes s'ouvraient sur des domaines conjoints, ils auraient tout à gagner.
C'est bien pour ça que des gens comme Edgar Morin, même s'ils ne se déplacent pas, se montrent ouverts. Parce qu'il est là-dedans depuis longtemps.
Hein. Oui, comme tous les physiciens quantiques, la plupart maintenant.
Mais pour pouvoir être sur cette position, il faut avoir, dans sa pratique, y compris dans sa pratique scientifique, avoir mesuré la nécessité à certains moments de changer de registre, de méthode, d'angle d'attaque du problème. Et la plupart des scientifiques peuvent se passer de ça. Ils sont dans un angle d'attaque qui leur convient très bien et qui est univoque. Mais là, voilà, il faut que je passe la parole.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une nouvelle génération c'est vrai qu'on a on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même vécu, hein, donc on peut avoir des vécus, je dirais, de guerre, mais qui sont différents. Par exemple, on a tous nos propres difficultés avec l'institution, parce que les blocages institutionnels. Je pense que la polémique peut se faire sereinement, c'est une autre question. Hein, c'est-à-dire que justement, ce qui m'emmerde, en général, les gens parlent à fleur et mouchetée et avec une série de précautions. Hein. Donc, on peut conserver à la fois la vigueur polémique et en même temps l'ouverture d'esprit. Donc, je crois qu'il faut arriver à faire ça avec traduction. Par exemple, tout champ de la mythologie. Hein, Arnaud, vous avez rappelé qu'il est un auteur fondamental avec une magie. Bon, il a réussi après, j'ai l'impression que c'est un peu refermé, c'est un peu conscience anthropologique, mais il a réussi à poser la question. Je dirais, si on porte le, par exemple, le combat, ce qu'on appelle également sur le terrain de la mythologie, là c'est intéressant, parce qu'on peut montrer qu'en fait, tout ce que vous appelez paranormal, c'est la mythologie.
Oui, mais
c'est donc le fonctionnement pratique et vécu de toute la société. Jusqu'à là, et on peut dire, y compris qu'on a des phénomènes psychologiques sont devenus fondamentaux, avec ce qu'on appelle les grands phénomènes de masse, le magisme, l'artisme, etc., qui étaient associés à des rituels, à des expériences mythiques et existentielles, paranormales, donc je pense qu'il faut faire cet effort de traduction, et il faut faire cet effort d'ouverture, sans oublier de polémiquer sur les questions épistémologiques fondamentales. Comme ce matin, je pense en effet que l'épistémologie scientifique grossit à dire qu'une expérience doit pouvoir se répéter, c'est une absurdité. Ce que l'on répète, c'est une partie de l'expérience. Et on considère que c'est cette partie qui va nous intéresser. Mais il y a toujours une partie de l'expérience qui n'est pas répétable. Hein. Là, on pourrait retravailler cette histoire-là. Alors, dernier point aussi sur les problèmes de l'ethnologie, c'est très intéressant, c'est ce que vous disiez, l'anthropologie, c'est-à-dire des expériences des autres cultures. Et attention, les autres cultures, c'est pas seulement les autres cultures, les Africains, les Mayas, c'est aussi les autres cultures chez nous. C'est très intéressant que, effectivement, plus de 50% de la population française soit mythique, parce qu'elle est là, notre culture. Hein, elle est, effectivement, et c'est souvent, moi c'est mon cas, lorsqu'on est un transfuge, c'est-à-dire lorsqu'on fait partie d'une classe populaire et qu'on arrive à entrer, si je puis dire, dans une classe bourgeoise et intellectuelle, on amène avec soi cette culture. Alors, il y a des choses assez extraordinaires, justement, dans ces autres cultures qui pratiquent la mythologie, la parapsychologie depuis des millions d'années.
Non, ce que je veux dire, simplement, c'est que 100% de la population française est mythique.
Voilà.
Simplement, il y en a qui le savent,
mais
le reste,
c'est pas ça. Exactement. Mais pour vous donner un tout petit fait, les aborigènes australiens, dont je reviens, là, j'ai passé 2 mois, ont développé quelque chose d'extraordinaire. C'est un système de messages télépathiques, mais tout à fait particulier, qui se manifeste par un tremblement d'une partie du corps. Cette partie du corps est différente suivant les ethnies aborigènes. C'est-à-dire, suivant que vous appartenez à telle ou telle ethnie, telle partie du corps va être associée à un membre de la lignée paternelle, ou plus précisément à un beau-père, et telle autre à une belle-mère. Mais dans une autre ethnie, ça peut être l'inverse. Et le fait étonnant, c'est que ça marche. Entendu, on peut toujours dire que ça ne marche pas, peu importe. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de données qui sont cohérentes là-dessus. Donc il y a effectivement un engrammage de la culture qui va jusqu'à, lorsque mon bras gauche bouge, le message me vient de quelqu'un de ma lignée paternelle, alors je me mets en communication, je reçois le message. Mais si j'appartiens à une autre ethnie, le même bras gauche va signifier la belle-mère. Alors là, c'est passionnant parce que là, ça nous amène à l'importance, justement, de la manière dont les contenus culturels vont être, en quelque sorte, engrammés dans le corps et se modifieront suivant les cultures et les
autres. Oui, ça pose le gros problème du rapport psychosomatique et du parapsychologie. S'agit-il de deux choses différentes? Est-ce la même chose? Vieux débat qu'on ne va pas régler aujourd'hui. Par rapport à l'aspect réactionnaire de l'université, on pourrait dire que c'est étonnant que ce soit finalement l'Église, enfin l'université catholique, qui ait accepté pour la première fois qu'il y ait une idée autour de ça, parce que les choses se sont inversées.